VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, comparaîtra finalement devant le tribunal correctionnel pour répondre des accusations d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Le 5 décembre dernier, les proches de M. Sall espéraient lui éviter un procès en déposant une caution après une longue période de collecte de fonds. Aujourd'hui que cette requête a été rejetée par le juge d'instruction, ces derniers réclament un procès équitable pour le maire de Dakar. Babacar Thioye Ba, directeur de cabinet adjoint du maire de la ville de Dakar, affirme que Khalifa Sall est victime d'un acharnement depuis le début de cette affaire.
Il y a non seulement un acharnement sur Khalifa pour des raisons purement politiques, mais surtout il y a une justice sur mesure. Maintenant, s'agissant du procès, il va de soi que nous le préparons avec sérieux, avec méthode, et nous allons, avec les avocats de Khalifa Sall, nous battre avec tous les arguments de droit que la loi nous donne. On espère, on souhaite que, pour une fois dans cette affaire, la justice sera indépendante.
Babacar Thioye Ba de la mairie de Dakar. Au Tchad, toutes les manifestations hostiles au régime de Déby, au pouvoir depuis 27 ans, ont été systématiquement interdites par le ministère en charge de la sécurité publique. Une exception, celle qui tend à soutenir la politique du gouvernement. La société civile dénonce ainsi ce qu'elle appelle une politique de deux poids, deux mesures. À N'Djamena, retrouvons notre correspondant André Code Majinga.
La démocratie n'est pas seulement l'organisation des élections, mais aussi le respect de la Constitution, déclare un président africain. Mais au Tchad, l'article 27 de la loi fondamentale qui garantit les libertés d'opinion, d'expression et de manifestation n'est pas appliqué à tous. Toutes manifestations qui n'arrangent pas le parti au pouvoir sont interdites ou réprimées. Contre toute attente, le même gouvernement a autorisé une société civile proche du pouvoir « Touche pas à mes acquis » d'organiser une manifestation hostile aux Américains le 26 novembre dernier. Du coup, 6 organisations de la société civile se constituent en un collectif et entendent descendre dans la rue. Mohamed Nouri Bédou en est le porte-parole.
Le fait d'avoir autorisé cette manifestation grotesque dénote une injustice flagrante et arbitraire contre nos préavis de marche systématiquement interdits. Le collectif des organisations de la société civile est donc décidé à organiser des marches pacifiques et des actions citoyennes contre les mesures antisociales déjà prises et celles à venir par M. Idriss Déby, marche dont elle fixera la date dans un bref délai.
Avec cette situation, le Tchad est en train de basculer vers un régime totalitaire, estime le politologue et ancien chercheur Dr. Ivaris Garlem Toldé.
Nous sommes face à un régime totalitaire parce que on voudrait bien savoir qui est celui-là qui a autorisé la coalition Touche pas à mes acquis de manifester et qui est ce ministre-là aujourd'hui qui interdit aux autres de ne pas manifester. Qu'est-ce que les gens craignent?
Le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, ne reconnaît pas avoir autorisé une manifestation publique.
Autorisation de marcher sur la voie publique a été délivrée à qui que ce soit. Eux, ils font allusion à la société civile de Gadimbaï, alors qu'il a organisé sa manifestation dans une salle fermée. Maintenant, à la sortie, d'autres militants ont tenté de marcher et la police a intervenu pour les disloquer. Moi, je m'en tiens à la loi. Si certes sans autorisation, ils me trouveront sur le chemin.
Pour le politologue Dr. Evaris Ngarlem Toldé, le ministre de la Sécurité publique est en train de provoquer les Tchadiens.
C'est de la provocation, ça. Et je crois que la société civile, la vraie, je veux dire, sera obligée de braver cette interdiction et puis d'exprimer son mécontentement face à ces mesures antisociales que le gouvernement continue à appliquer. Mieux vaut sortir mourir dans la rue que de rester mourir à la maison.
Les syndicalistes, quant à eux, se réservent le droit de descendre dans la rue si le président Déby maintient sa décision, celle de geler les avantages de tout travailleur pour les ramener aux années d'avant pétrole. André Code Madingar N'Djamena, VOA Afrique.
Un nouveau front de crise politique agite la RDC où le premier ministre du président Joseph Kabila, Bruno Tshibala, et l'opposition radicale anti-Kabila se disputent l'héritage et le nom du parti historique d'opposition UDPS de Feu Étienne Tshisekedi. Monsieur Tshibala a revendiqué la propriété du siège de l'UDPS à Limété, commune de Kinshasa et fief du fils de Monsieur Tshisekedi. Il a été désigné dimanche président de l'UDPS lors d'un congrès extraordinaire à Kinshasa devant quelques centaines de militants surchauffés. M. Tshibala est en train de prouver à la face du monde qu'il a été recruté par M. Kabila pour balkaniser l'UDPS, a réagi le porte-parole de l'UDPS branche limitée, Augustin Kabuya, qualifiant le premier ministre de vagabond politique. M. Tshibala a été exclu de l'UDPS en début d'année, avant d'être nommé premier ministre, a-t-il affirmé à l'AFP. Le chef de l'opposition kényane Raila Odinga a renoncé à organiser demain mardi une cérémonie d'investiture à la présidence parallèle, une décision perçue comme un geste d'apaisement envers le président Uhuru Kenyatta. L'opposition considère le résultat de l'élection du 26 octobre qu'elle avait boycotté comme une imposture. Uhuru Kenyatta a prêté serment le 28 novembre pour un second mandat de 5 ans. Il avait battu Raila Odinga lors d'un premier vote organisé le 8 août, puis annulé par la Cour suprême en raison d'irrégularités dans le déroulement du scrutin. La Chine a mis sur orbite lundi le premier satellite algérien dédié aux télécommunications, marquant les débuts de la coopération spatiale entre les deux pays, a indiqué un média d'État chinois. Alcom Sat-1 a été propulsé par une fusée chinoise dimanche depuis le centre de lancement de Xichang dans la province de Sichuan dans l'ouest du pays, selon l'agence Chine Nouvelle. L'engin sera utilisé par l'Algérie pour la diffusion télévisuelle, les télécommunications d'urgence, l'éducation à distance, la communication entre les entreprises ou encore la navigation par satellite.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, d'où nous émettons, il est 6h06. Sommet demain mardi sur le climat à l'ouest de Paris, sur l'île Séguin. Plusieurs dizaines de dirigeants veulent accélérer une action climatique encore très insuffisante. 2 ans, jour pour jour après, Paris a abrité la COP21 pour adopter un pacte historique entre le réchauffement climatique. Eric Manirakiza.
La France, l'ONU et la Banque mondiale qu'organisent ce sommet consacré au financement. Cette initiative veut orienter la finance mondiale vers les investissements verts et notamment soutenir les pays du Sud. Une 50aine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sont annoncés. Des élus, entreprises, fondations américaines viendront dire que l'Amérique est toujours là. De grands acteurs mondiaux de la finance publique et privée, des ONG, l'acteur américain et fervent militant écologiste Leonardo DiCaprio sont aussi attendus. Les banques de développement et institutions publiques au sein du G20 dépensent annuellement 72 milliards de dollars dans des projets liés aux fossiles, c'est 4 fois moins pour les énergies propres. Le pape François a souhaité l'adoption des décisions efficaces pour contrer les changements climatiques et combattre la pauvreté. Les pays du Nord ont promis de porter à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 leur financement climat aux pays du Sud. Les besoins mondiaux en infrastructures durables sont estimés à 90 000 milliards de dollars d'ici à 2030.
Le président Vladimir Poutine a atterri ce lundi à une base de l'armée russe en Syrie, a annoncé l'agence de presse russe. Il y a été accueilli par le dirigeant syrien Bachar al-Assad, le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et le chef des forces russes en Syrie Sergei Sourovikine, selon l'agence. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump rend la paix possible au Proche-Orient, a affirmé lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de sa première visite à Bruxelles. Par ailleurs, le président Trump a décidé de dépêcher son vice-président Mike Pence à la fin du mois au Proche-Orient, mais les dirigeants palestiniens lui ont opposé une fin de non-recevoir. De son côté, Mme Mogherini a réitéré la position de l'Union européenne en faveur d'un État israélien et d'un État palestinien vivant côte à côte et de Jérusalem comme capitale de ces deux États. Et puis, le président philippin Rodrigo Duterte a demandé lundi au Congrès de prolonger jusqu'à la fin 2018 la loi martiale décrétée dans le sud de l'archipel contre les rébellions islamistes et communistes. Dans une lettre aux parlementaires rendue publique par son cabinet, le chef de l'État philippin explique que la prolongation de l'état d'urgence est nécessaire dans le tiers sud du pays, ce que ses détracteurs voient comme un indice supplémentaire de la dérive de sa présidence. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, ce sera dans exactement 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure pour un nouveau journal 50 minutes. Merci pour votre fidélité.
Soyez
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.